Le jeu vidéo est passé de la contre-culture à la culture dominante, devenant la forme culturelle majeure chez les jeunes au XXIe siècle. Le jeu vidéo a de multiples facettes, mais peu importe son genre ou sa forme, il est un médium puissant. Le jeu sérieux est désormais bien reconnu, qu'il s'agisse de formation, de sensibilisation à un sujet particulier ou autre. Mais des thématiques « sérieuses » entre guillemets apparaissent aussi de plus en plus dans le jeu vidéo dit de divertissement. Des créateurs intègrent des enjeux sociétaux comme l'inclusion ou l'environnement dans leur jeu. Et finalement, de nombreux enjeux accompagnent le développement d'un jeu vidéo. Ils concernent autant son industrie, sa conception que la narration qu'il offre. Alors, peut-on parler de jeux vidéo engagés ? Ce serait quoi ? Et existe-t-il une nouvelle génération de créateurs et créatrices engagés ? Le jeu vidéo, qui appartient aux industries du divertissement, doit-il être responsable ou encore éthique ? Bonjour, bienvenue dans cette 13e causerie de la Plaine. Je suis Blandine Lebourg, responsable veille et contenu de la Plaine Image. Et je suis ravie aujourd'hui d'aborder la question du jeu vidéo engagé avec trois créateurs de jeux qui sont dans l'incubateur de la Plaine Image. Caroline, Henri, Kilian, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à cette petite causerie. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, chacun votre tour, nous dire un peu qui vous êtes et ce sur quoi vous travaillez? Allez, peut-être honneur aux filles, Caroline, si tu veux bien démarrer.
Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Caroline Lamarque, je suis co-porteuse du projet Deus Marmota, un futur studio transmédia dont l'activité principale sera effectivement la création de jeux vidéo. J'ai eu une formation d'organisatrice d'événements culturels, j'ai été commissaire d'exposition, donc tout ce qui est gestion, effectivement, organisation, je connais. J'ai une formation artistique, donc pareil, tout ce qui est production d'assets sur les jeux vidéo, c'est aussi ma partie. Donc pour Deus Marmota, effectivement, je suis la directrice créative. Donc pour rappel, c'est la personne qui regarde un petit peu ce qui se fait autour, chez les autres, pour apprendre des autres. Je suis la chara-designeuse, donc celle qui fait les personnages. Et je m'occupe aussi un petit peu de gérer la partie administrative et financière. Voilà.
Et du coup, tout de suite, un petit peu, est-ce que tu peux développer un petit peu, nous parler un peu de Deus Marmota et de son premier jeu, surtout, qui est en cours de développement, si je ne m'abuse?
Oui, bien sûr. Alors, donc Deus Marmota, comme je l'ai rapidement évoqué, ce sera un studio transmédia, donc qui fera du jeu vidéo, mais aussi de l'édition de livres, de la création de jeux de société. Et notre premier jeu vidéo en production, c'est Revenge Story. Revenge Story, c'est un visual novel. Donc c'est un jeu vidéo narratif qu'on pourrait résumer comme un peu un livre dont on est le héros, mais en format virtuel, pour ceux qui connaissent pas trop ce genre de jeu vidéo. Et on a pris le parti effectivement de faire un visual novel où la liberté est très très grande. C'est-à-dire que le joueur ou la joueuse peut laisser libre cours à son interprétation de l'histoire. Il ou elle peut être très gentil, comme il peut raser le pays, si je peux dire. Vraiment, c'est un jeu qui permet d'extérioriser un petit peu, si je puis dire, son interprétation de notre histoire. Et on voulait effectivement que les personnes puissent se reconnaître dans cette expérience de jeu par le biais de l'inclusivité. Donc on permet effectivement aux personnes de personnaliser leur genre en début de partie, et les romans sont totalement libres dans notre histoire.
Oui, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, effectivement. Du coup, Kilian, peut-être que tu peux nous parler de toi.
Ok, donc bonjour, moi c'est Kilian, je suis incubé à la Plaine Image et co-porteur de projet Diluvian Winds. Donc avec quatre autres associés, on travaille au sein d'un studio qu'on a appelé Alambic Studio. Donc on sort tous de formations de jeux vidéo, on était à Isard Digital à Paris. On a tous des formations diverses, certains sont game artistes, moi je suis plutôt développeur. Donc la formation que j'ai fait autant du game design que du développement. Diluvian Winds, c'est un jeu sur lequel on va incarner un gardien de phare et on va être dans un contexte de montée des eaux. Donc on va avoir passé devant chez nous un flot continu un peu d'exilés qui vont essayer de fuir la catastrophe. Et on va avoir l'occasion de les accueillir ou non chez nous. Et chaque personne qu'on accueille va nous aider à consolider un peu notre phare pour nous aider à survivre graduellement à la montée des eaux.
Super. Et Henri ?
Bonjour. Pardon. Donc, je m'appelle Henri Médeau et je suis le fondateur de Maui Games. Donc, Maui Games, c'est un studio de jeux vidéo éco-responsable qui veut en quelque sorte connecter le plaisir des joueurs à la bonne santé de notre planète. Donc en fait, on travaille sur un premier jeu vidéo qui s'appelle du coup Sidaout Fenua, qui veut répondre à une problématique, celle de devoir contribuer au défi de planter 1200 milliards d'arbres pour compenser en partie le réchauffement climatique. Et donc, en fait, Sidaout Fenoua, c'est un jeu vidéo mobile, multijoueur et coopératif. C'est vraiment un jeu type Animal Crossing qui va sensibiliser les joueurs aux enjeux de la reforestation dans un univers inspiré de la culture polynésienne. Et dans ce jeu, chaque arbre virtuel planté qui atteint le stade adulte finance la plantation d'un arbre réel. Et du coup, mon rôle dans l'entreprise, c'est aujourd'hui d'essayer de concrétiser la vision qu'on a du jeu vidéo de demain. Donc, il y a un aspect gestion d'entreprise, mais aussi un aspect de faire en sorte de bien poser notre vision du jeu vidéo de demain, qui peut avoir un impact à grande échelle dans notre société, et puis de faire en sorte de réaliser un peu ce rêve, quoi.
Oui, bah une belle ambition, effectivement. Alors, on parle de plein de jeux, et vous allez pouvoir retrouver effectivement l'accès et plus d'infos sur tous ces jeux dans le... juste en dessous du podcast, donc n'hésitez pas à les découvrir aussi par vous-même. Mais alors, du coup, effectivement, tous les trois, vous abordez des thématiques qui peuvent être différentes, qui sont quand même des thématiques sociétales assez fortes en ce moment, hein, qu'on parle de développement durable finalement ou d'inclusion. Est-ce que c'est une démarche volontaire? Enfin, quelle a été votre démarche quand vous avez imaginé finalement le développement de vos différents projets?
Alors... Enfin, pour ma part, l'origine de l'idée, c'est de se dire que j'étais, du coup, je suis parti en Polynésie il y a 2 ans pour m'y installer, trouver un quotidien qui change un peu de celui de la France et avec une culture que je recherchais. Et en fait, en 2019, il y a eu les incendies qui ont ravagé des forêts. Et moi, je me suis à un moment donné retrouvé en train de jouer dans mon jardin. Et puis à la fin, je relève la tête après ce petit moment de détente. Je regarde autour de moi, je vois toute cette nature et je me dis, mais en fait, je suis en train de m'amuser à un jeu vidéo alors qu'il se passe des choses catastrophiques en fait sur notre planète. Et c'est là où j'ai réalisé que le plaisir avait une place plus importante que nos responsabilités quelque part et ce qu'on devait faire. Et donc c'est là où je me suis dit que peut-être qu'il fallait utiliser le plaisir pour répondre à des enjeux sérieux à travers le jeu vidéo.
Oui, tout à fait. Donc vraiment une démarche volontaire dès le début d'utiliser le jeu effectivement pour avoir un impact concret en fait finalement dans la vie réelle, dans le cadre de ton jeu. Kylian, toi du coup, cette thématique du développement durable, enfin en tout cas des risques climatiques plutôt on va dire je pense, tu l'abordes également et... Est-ce que tu peux nous reparler de cette démarche et pourquoi avoir choisi cet environnement de jeu, quoi, finalement ?
Oui, bah du coup, à la base, c'était un peu un constat qu'on avait avec un de mes co-associés sur le projet, qui était qu'on voyait beaucoup d'univers post-apocalyptiques ou autres qui étaient développés dans le jeu ou dans d'autres œuvres, au cinéma et autres. Et les solutions qui étaient souvent envisagées, en tout cas les problématiques qu'ils montraient, c'était souvent des tensions, des conflits entre différents acteurs qui vivaient ces mêmes galères-là. Et c'est un peu une idéologie qui est un peu dominante du fait que si un jour on doit faire face à des gros flots de réfugiés ou autres, il va y avoir des différentes problématiques de comment on accueille, être en guerre directement avec ces personnes-là. Et nous, l'objectif, c'était on voulait développer des univers collectifs un peu différents, des façons de gérer ces catastrophes-là différentes. Donc on partait un peu celui-là qui était que dans notre jeu, on va pas empêcher la catastrophe d'arriver. Enfin, ça va arriver, il y aura la montée des eaux, on va la vivre. L'idée, c'était plutôt comment est-ce qu'on s'organise autour de ça, comment est-ce qu'on continue de vivre autour de ça. Et donc, ça a été plutôt influencé par des livres qu'on a lus, notamment de Pablo Servigne ou Gauthier Chapelle, qui parlent de collapsologie ou autre, qui était que tout recentré autour un peu de la question de l'homme en tant qu'animal social qu'est-ce qu'on pouvait s'apporter les uns aux autres. L'idée, en fait, c'était de nous dire, nous, on veut faire des jeux qui vont traiter de problématiques sociétales, mais on va apporter pas forcément des solutions, parce que ce serait un peu trop, enfin, on n'a pas les clés en main, mais plutôt développer d'autres façons de penser autour de ces problématiques-là. Notamment, donc, du coup, nous, ce serait l'entraide, la résilience. Voilà.
D'accord. Et du coup, Caroline, toi, quand tu parles d'inclusion, en fait, c'est un sujet qui... Voilà, te tenait à cœur ou que tu trouvais essentiel de remettre dans les mains du joueur aussi ou...
Alors pour nous, ça s'est fait de façon assez évidente et assez naturelle en fait, c'est-à-dire que nous, on voulait raconter des histoires, c'est pour ça qu'on est parti sur du visual novel, on s'est dit voilà, on va raconter une histoire, mais on n'a pas envie que le joueur ou la joueuse soit freiné dans son immersion à l'histoire par rapport à sa façon de rentrer dans la peau de l'avatar. On s'est dit, on va faire un avatar, c'est essentiel, mais on a envie que tout le monde se reconnaisse dans cet avatar. Et du coup, c'est pour ça qu'on a effectivement trouvé cette solution de permettre à tout le monde de personnaliser le genre dans son avatar, de personnaliser le nom de son avatar et de permettre aux romances d'être totalement libres. Parce que le genre ou l'orientation ne devrait pas être un frein quand on décide effectivement de rentrer dans un univers. Au contraire, il faut qu'on soit pleinement dans cet univers et c'est pour ça qu'il est important de correspondre à toutes les personnalités et à tous les profils.
Et du coup, tu identifierais ton jeu dans la veine des queer games ou du coup pas du tout dans cette mouvance-là?
Je ne sais pas si Revenge Story pourrait être considéré comme un queer game dans le sens où effectivement l'inclusion fait partie du jeu, c'est sûr, effectivement, mais on ne l'a pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'inclusion, on l'a, comme je l'ai dit, on l'a ancrée de façon très naturelle. C'est, pour nous, c'était évident d'utiliser l'inclusivité dans un jeu vidéo et je pense que la tendance devrait être ça dans la production de tous les jeux vidéo actuels, c'est que ça devrait paraître naturel, normal pour un développeur, pour un game artist, pour quelqu'un qui produit du jeu vidéo, de penser à l'intégralité des personnes qui y jouent en fait, tout simplement.
Oui, c'est intéressant. Et vous, du coup, quand vous abordez Kylian Henry des thématiques de développement durable, c'est vous vous imaginez, vous vous présentez comme finalement des créateurs engagés, c'est une vraie volonté, vous vous dites que le jeu vidéo peut vraiment apporter quelque chose et doit apporter quelque chose sur ces thématiques-là, ou bien non, c'est une thématique que vous avez abordée comme vous auriez pu en aborder une autre finalement?
Pour le coup, personnellement, c'était une thématique qu'on voulait vraiment aborder dans le jeu. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui consomme énormément en termes d'énergie et d'écologie. Donc, de toute façon, la façon la plus écologique de faire du jeu vidéo, c'est de ne pas en faire. Après, à partir de là, les gens vont consommer. C'est la plus grosse industrie du moment et tout. Et donc, l'idée, c'était plutôt de commencer à orienter un peu les différents types de jeux qu'on peut faire et la façon dont les joueurs vont consommer ces jeux. Donc, on trouvait que c'était une thématique qui était plus qu'importante. On est un des principaux acteurs aussi de tout ce qui se passe en termes de réchauffement climatique, en termes d'écologie. Hein, les jeux vidéo, c'est beaucoup de métaux rares qui sont extraits. Donc, un peu de responsabiliser aussi là-dessus, les joueurs sur ce qu'ils consomment et comment ils vont le consommer. Donc, si on peut un peu aider aussi là-dessus sur orienter les différentes pensées qui vont passer chez les joueurs, c'était notre démarche principale sur le sujet.
Oui, et peut-être changer les comportements, parce que si on revient à l'essence du jeu vidéo, j'en parlais en introduction, mais c'est quand même un médium, je pense, assez fort, peut-être même le plus puissant, quoi. Donc ça peut contribuer également à ça, selon toi?
Oui, totalement. Le jeu vidéo, du fait qu'on est acteur de ce qu'on fait, est plus puissant, je pense, que le film ou le livre. C'est parce que le joueur va vraiment s'approprier un peu les actions, l'histoire, et on va le mettre en personne qui va créer les choix, donc tous les choix qu'il va faire vont se poser en dilemme à lui au final. Donc oui, totalement, c'est le médium est fait pour être utilisé comme ça, je trouve.
Bon, Henri, c'était un peu la même question, mais je pense que tu nous l'as déjà dit vraiment au début. Toi, tu avais vraiment une volonté forte, en plus d'avoir un impact concrète sur la vie réelle et pas uniquement sur effectivement pouvoir finalement accompagner la transition qui est nécessaire et le changement de comportement des gens et donc des joueurs.
En fait, c'est ça. En plus, c'est vrai que parler du potentiel du jeu vidéo, pour moi, c'est assez fort parce que c'est vraiment là-dessus que je me base pour réaliser, pour concrétiser tout. C'est un rêve, mais c'est pas qu'un rêve. C'est pour moi, c'est une réalité de se dire que le jeu vidéo est tellement présent dans notre société, il a un impact tellement fort, que ce soit directement, que ce soit sur à travers des plateformes comme Twitch, YouTube. On voit que c'est là où le contenu du jeu vidéo crée une communauté, il y a vraiment une communauté, mais aussi dans d'autres industries, on va retrouver le jeu vidéo dans des aspects un peu inattendus. Alors il y a de la simulation, il y a de la formation, mais il y a aussi une manière de, quelque part, de sauver des vies, parce qu'il y a des technos issus du jeu vidéo qui sont utilisés pour former des médecins, pour former des choses comme ça, et ça contribue aussi indirectement à plein de choses dans notre société. Et ce potentiel-là, pour moi, c'est d'essayer de l'utiliser pour se dire qu'en fait, on ne veut pas juste faire des jeux vidéo qui ont un impact neutre, ou on veut vraiment mettre un moyen entre les mains de cette grosse communauté, d'avoir le moyen d'avoir un impact vraiment positif, en fait, d'avoir un impact plus fort que juste que d'avoir un impact réellement fort, quoi. Et vraiment d'utiliser le côté fédérateur et fédérer justement ouais, toute cette personne, toutes ces voilà, tout ça pour en faire vraiment une communauté forte qui a un impact à grande échelle.
Et du coup, Kylian, tu l'as abordé un petit peu dans tes propos. Donc, c'est vrai qu'il y a la narration, il y a le gameplay, mais finalement, il y a aussi tout ce que peut engendrer l'industrie vidéoludique en termes de consommation, d'énergie, de production de CO2, etc. Mais il n'y a pas que ça, finalement. Si on parle aussi d'inclusion, il y a aussi toute la situation qui peut être dans certains gros studios, hein, le MeToo dans le jeu vidéo, etc. Il n'y a pas que MeToo, finalement, il y a toutes ces questions d'inclusion qui ne sont pas forcément liées qu'au genre. Du coup, est-ce que c'est aussi des démarches que vous avez au quotidien, et est-ce que du coup, vous avez besoin de les avoir aussi, puisque vous abordez des thématiques sociétales? C'est une question pour tous les trois, finalement.
Du coup, ouais, en termes de jeux notamment, enfin, l'objectif chez Alambic Studio, c'est d'essayer de faire des jeux un peu plus éco-responsables. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais par exemple, on veut éviter tout ce qui va être jeu en ligne pour éviter d'utiliser des serveurs, stocker le moins de données possible en ligne. Donc, ça va être souvent ça va être tout le temps des jeux solo. Ensuite, derrière, il faut qu'on fait principalement du jeu 2D parce que la 2D va demander un peu moins aux différentes consoles ou ordinateurs qui vont être utilisés. Et surtout, du coup, on va beaucoup axer sur l'optimisation pour que les jeux qu'on fait puissent tourner sur le parc informatique le plus ancien, pour que les gens n'aient pas besoin de racheter des consoles à chaque fois, des nouvelles cartes graphiques ou autres. Donc maintenant, c'est vraiment une volonté qu'on a dans le jeu qu'on veut proposer. On n'a pas forcément envie d'axer sur les consoles, on préfère rester sur ordinateur, potentiellement portable, parce que c'est ce que les gens possèdent déjà au quotidien, et pas les forcer à racheter d'autres outils derrière.
Et donc une vraie démarche éco-responsable finalement de A à Z. Et c'est quelque chose que vous mettez en avant vraiment auprès de votre communauté de joueurs, que vous leur expliquez vous le faites parce que vous êtes dans votre démarche?
On le fait parce que c'est notre démarche, c'est pas forcément un truc qu'on met en avant. On devrait sûrement le faire. De toute façon, le projet en a encore à ses débuts, donc la communication dessus s'axe beaucoup sur le gameplay actuellement. C'est un truc qui pourrait revenir potentiellement plus tard. En tout cas, ce genre de podcast nous permet d'en parler, de le mettre un peu plus en avant. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre sur lequel on pourrait plus s'axer.
C'est des thématiques sur lesquelles vous réfléchissez chez Deus Dermota aussi, sur ces questions de consommation d'énergie
Alors, pour la consommation d'énergie, pour l'instant, comme on travaille sur Event Story, qui est un visual novel, effectivement, on est aussi sur la production d'assets 2D. Je pense qu'on fait attention, mais qu'on n'est peut-être pas autant investi peut-être que Kylian, mais on réfléchit déjà effectivement à quand le studio se sera développé, à des choses à mettre en place au quotidien, c'est tout bête, mais le recyclage, enfin des choses, des gestes du quotidien qu'on fait normalement chez nous, les transposer au milieu professionnel, faire attention aussi, je pense, au café, les dosettes, ce genre de choses, c'est des gestes finalement qui sont très simples à mettre en place et qui gagneraient à être appliqués finalement dans toutes les sociétés. Côté inclusivité, là c'est pareil, je pense que ça devrait être le cas partout, j'espère que c'est le cas partout, mais dans le cadre d'un recrutement par exemple, il faut effectivement donner sa chance à tout le monde. Je pense à des associations comme Women in Games, Afro Gameuses, qui justement mettent en avant ces personnes qui veulent effectivement être mieux reconnues, mieux représentées dans le jeu vidéo et leur donner un coup de pouce. Je pense que c'est notre mission à tous aussi.
Henri, toi, du coup, c'est vrai que en fait, tu compenses automatiquement en plantant des arbres, j'imagine. Ou il y a autre chose quand même derrière tout ça.
L'aspect compensation, c'est vrai que j'aime pas trop le terme parce que ça veut dire qu'on oui. Justifie le fait de mal consommer en ayant un impact positif. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Et du coup, il y a différentes approches, je trouve, avec Kylian aussi. C'est ça qui est bien, c'est de se dire que l'industrie du jeu vidéo, il y en a qui vont travailler plus sur l'optimisation du produit en tant que tel, dans son aspect consommation d'énergie, et d'autres qui vont plus, du coup, essayer de sensibiliser ou d'avoir un impact positif, d'avoir un impact plus direct, on va dire. Et je pense qu'au final, travailler sur différents points, on finira par faire du jeu vidéo quelque chose qui consomme peu d'énergie et qui peut en même temps générer des impacts positifs. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je pense que l'avantage du jeu vidéo, c'est qu'on peut, qu'il y a différents, différents moyens d'avoir un impact positif, en tout cas aujourd'hui, même si les technos ne sont pas encore suffisamment peut-être développés, mais voilà, en abordant, en attaquant sur différents points de vue, on va réussir à progresser, puis on se voit.
C'est optimiste, c'est chouette. Mais du coup, nous, donc à la Pleine Image, on a cet incubateur jeux vidéo, il y a déjà eu plusieurs promos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait ce podcast aussi parce qu'on avait remarqué une sorte de tendance aussi à avoir de plus en plus de créateurs engagés sur beaucoup de thématiques. Et on l'a vu également se retranscrire effectivement dans l'incubateur parce qu'on a cette chance en fait, finalement d'avoir des gens comme vous qui sont hyper, hyper engagés, motivés et du coup engageants en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, vous, dans l'industrie vidéoludique aujourd'hui, dans les relations que vous pouvez avoir, est-ce que c'est vraiment un mouvement qui est en train de se développer plus qu'à un moment donné? Est-ce que vous avez des exemples à me citer, des inspirations particulières ou des choses comme ça?
Je pense personnellement que les forts enjeux sociétaux ont toujours eu une présence plus ou moins visible dans le jeu vidéo, à différentes étapes, même dans le rétro gaming, je suis sûre qu'il y a des références que je n'ai pas forcément immédiatement. Effectivement, je pense qu'on en voit plus actuellement grâce au fait que le jeu vidéo est entre guillemets plus accessible pour les jeunes développeurs. On a plus de production indépendante, et qui dit production indépendante dit, enfin, c'est une conception assez personnelle, mais pour moi, un jeu indé, c'est un jeu qui est plus humain, il est plus proche en fait de son créateur. Le créateur va transmettre ses propres valeurs en fait à travers son médium, et je pense que c'est grâce à ça finalement qu'on se retrouve avec des jeux plus humains, avec des thématiques plus fortes et qui parlent à plus de personnes en fait.
Je dirais que c'est une mouvance déjà plus dans le jeu indépendant que dans le gros jeu. Le gros jeu, les triple A, ils en sont encore à faire incarner des personnages féminins ou choisir l'orientation sexuelle des personnages, qui devrait être quelque chose de base acquis et normal dans tous les jeux, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est le fait que le jeu est, enfin, les moyens de développement autres sont plus accessibles aussi, qui fait que les gens peuvent un peu plus s'exprimer. Pour le coup, moi, enfin, venant directement du monde étudiant, je sais que ce sont des thématiques dans lesquelles beaucoup d'étudiants sont investis actuellement. Qui mettent beaucoup en place, que ce soit dans des jams ou même en projet étudiant, avec des écoles aussi qui sont beaucoup plus conciliantes, à laisser les étudiants plus libres aussi sur les différents projets qu'ils ont envie de faire, un peu moins les axer autour de juste de faire du jeu en fait, les laisser s'exprimer. Donc oui, c'est une mouvance. Je pense que les joueurs aussi ont commencé à prendre conscience de certaines choses et ont envie de jouer à ce type de jeu. Nous aussi, c'était une de nos démarches, hein, c'était qu'on voulait commencer à jouer à des jeux qui nous impactaient un peu plus aussi. Dans nos références directement, on avait, enfin, notre jeu, on avait This War of Mine ou Beholder, qui sont des jeux qui parlent pour l'un de la guerre, l'autre de la surveillance en état totalitaire ou autre. Enfin, c'était des façons de consommer qui nous plaisaient en tant que joueurs. On avait l'impression d'apprendre des trucs ou autre. Et donc, c'est un truc qu'on a envie de rendre aussi aux joueurs derrière.
Oui, mais d'ailleurs, j'ai vu récemment une étude de Newzoo, en fait, qui a été menée au Royaume-Uni et aux États-Unis, où effectivement, plus de la moitié des joueurs ont affirmé souhaiter plus de différence de genre dans le jeu vidéo et que les éditeurs adoptent des positions plus actives aussi, en fait, sur les sujets sociétaux. Donc, effectivement, tu le dis bien, il y a d'une part finalement une vague de créateurs, mais il y a aussi des joueurs qui sont hyper demandeurs en fait finalement et qui vont aller plus vers ce genre de jeu aujourd'hui. Donc c'est plutôt je trouve ça plutôt positif en fait finalement. Peut dire, est-ce que si demain on est joueur, ça peut être un acte engagé finalement fort de jouer à tel ou tel jeu, j'imagine quoi. De ton côté, Henri, du coup t'as eu des inspirations particulières ou t'es parti de cette idée que le jeu était le médium parfait finalement pour avoir un impact, ou est-ce que tu as détecté un développement sur le projet au-delà de l'incubateur?
Alors effectivement, comme tu le dis, je trouve que c'est bien d'utiliser le mot, enfin pour moi c'est vrai que c'est un médium parfait pour solliciter toute une communauté, une société. Et du coup j'ai découvert pendant la veille justement de voir ce qui se passait un peu des mouvements comme Playing for the Planet, ouais, qui est une alliance en fait qui va regrouper les plus grandes entreprises de l'industrie du jeu vidéo dans lesquelles elles s'engagent à d'une part sensibiliser leur communauté et d'autre part à neutraliser leur empreinte carbone.
Mais alors tout de suite, c'est une question que je voulais poser, hein, greenwashing ou pas greenwashing ? Parce que quand tu vois les studios, les entreprises qui ont rejoint l'Alliance, on est quand même sur des poids lourds.
Ouais. Alors moi, du coup, le terme greenwashing, j'ai été pas mal confronté du coup en présentant le projet. Et en fait, l'idée de greenwashing, pour moi, ça évolue. Effectivement, dans le concept de, il y a des entreprises qui vont aujourd'hui financer des actions environnementales pour se mettre en avant. Mais je pense que finalement, on se rend compte que sans ces marques et sans justement la possibilité de coopérer entre les marques et les gens et les joueurs, on ne va pas y arriver. Et greenwashing ou pas, pour moi, le plus important, c'est de se dire que si le greenwashing, ça marche, elles vont s'engager plus facilement, ces marques-là, vers des produits plus responsables, parce qu'elles verront que c'est ce qui est demandé par la communauté. Et donc, je ne sais pas si greenwashing, c'est le bon terme. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ces industries, ces marques j'espère qu'elles font ce qu'elles peuvent avec leur conscience et puis les technos qu'elles ont. Je sais que c'est pas... Nous, on a la chance aujourd'hui de se dire qu'on n'a pas derrière tout un produit à remodeler, tout un modèle économique à changer, à prendre des risques de ce niveau-là. On commence de zéro. On crée un modèle économique autour de notre vision et pour essayer de partir dès le départ vers quelque chose de plus inspirant et qui reflète ce qu'on veut voir quoi, du jeu vidéo. Après, je pense que demain, effectivement, on va voir de plus en plus de jeux vidéo co-responsables. Parce qu'on le voit, ce qui se passe entre les feux de forêt, le Covid, on sent que la société a besoin d'humains, de vrais, de réels, et moins basé sur le superficiel, enfin sur l'aspect consommation à l'état pur de produits. C'est vraiment, je pense que tout le monde est en recherche d'humains et de mieux vivre.
Il y a certainement un peu urgence d'un point de vue environnemental également. mais du coup, quand je vous écoute, j'ai envie de me dire, finalement, le jeu vidéo... est un vrai outil pour sauver le monde, entre guillemets. Hein. C'est déjà dit depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a des gens qui sont très positionnés sur ce sujet-là. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez quoi ? Enfin, je pense que du coup, tu viens de nous le dire, c'est quelque chose dont tu es persuadé. Quoi. Mais est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Et est-ce que demain, finalement, il y aura une vraie prise de conscience, finalement, de l'image d'un médium qui a été quand même mis à mal récemment et qui redevient seulement sur le devant de la scène.
Alors je pense que totalement, notamment avec la période actuellement de Covid, de confinement et tout, on voit déjà que c'est un grand vecteur de lien social, le jeu vidéo. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais joué s'y mettent. Ça permet de maintenir les personnes un peu concernées par ce qui se passe autour d'eux, maintenir du lien social avec leurs amis, d'avoir une activité qui est à la fois intellectualisante et aussi qui leur permet de rester actifs dans leur journée. Donc le jeu vidéo a un pouvoir que beaucoup d'autres médiums n'ont pas, qui est, comme je disais au début, de rendre la personne qui joue active de l'histoire qu'elle est en train de vivre. Et à partir de là, c'est vrai qu'actuellement, on est en train de reprendre un peu certaines lettres de noblesse en tant que médium. Pour autant, je sais pas si la volonté du jeu de base doit être forcément de sauver un peu tout le monde. Ça reste des outils de consommation. On n'empêchera pas les gens de consommer du triple A. Au final, est-ce que les gens n'ont pas envie de jouer aussi à ce type de jeu ? C'est parfois une réponse qu'on prend, notamment en milieu étudiant, quand on fait des jeux ou autres, où les gens vont dire « bon, c'est politique, c'est pas un jeu », ce qui est totalement faux, ou plutôt aberrant, mais c'est une réflexion qu'on prend encore, donc on en est un peu, même s'il y a une prise de conscience un peu globale, on est encore au début, il y a encore beaucoup de travail à faire, et ouais.
Je te rejoins, Kylian, sur ce que tu dis, effectivement, il y a le côté AAA, mais... Le fait qu'il y ait des jeux indépendants qui soient vraiment engagés, qui soient forts dans leur thématique, ça fait changer les mouvances. Bon, j'ai plus d'exemples effectivement dans l'inclusivité, mais on voit de plus en plus de gros jeux, je pense à Assassin's Creed, je pense au Dragon Age, où les romans sont totalement libres, où on fait beaucoup plus attention à la notion de genre notamment. Effectivement, tous les enjeux sociétaux ne sont pas encore fortement représentés dans les AAA, mais je pense qu'à force, effectivement, comme on disait depuis tout à l'heure, qu'il y ait des jeux qui en parlent, qu'il y ait des joueurs qui le demandent, je pense que petit à petit, les AAA aussi vont représenter ce genre de choses avec justesse et sans forcing, si je puis dire.
Non, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est déjà des... Enfin, y a des batailles qui sont un peu gagnées déjà, ne serait-ce que le genre de la personne qu'on veut jouer ou autre. Oui, ça, c'est clair que ça avance et que c'est très lié aux différents jeux qui sortent à côté.
Il y a plein d'autres sujets aussi. Hein. Là, on parle essentiellement d'environnement ou d'inclusion, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les questions d'accessibilité. Je pense qu'il y a des sujets politiques, même ça, on l'a rapidement évoqué, mais il n'y a pas que ces deux sujets-là dont on parle qui aujourd'hui ont une place dans le jeu vidéo, finalement. Et du coup, pour résumer un peu, pour vous, du coup, c'est quoi le jeu vidéo? Est-ce qu'on peut parler de jeu vidéo engagé d'abord, quand en fait, finalement, on se dit ça, mais est-ce que c'est un terme qui existe? Et ce serait quoi, le jeu vidéo engagé? Est-ce que ça doit se dire, finalement?
C'est un terme qui existe, je pense. Ouais. Dès lors que la démarche des auteurs est de... à apporter une solution ou un message à une problématique, enfin en tout cas qui a une prise de position sur une problématique, on peut parler de jeux vidéo engagés, hein, c'est pas le autour de la table, on n'a pas juste des c'est pas juste une trame de fond pour la narration ou autre, hein, c'est des démarches personnelles. Donc je pense qu'on peut clairement dire que c'est du jeu engagé, enfin c'est des œuvres engagées de toute façon. Je dirais qu'il y a plusieurs façons de faire du jeu engagé plutôt, qui est soit on ancre clairement dans le contexte, donc on va mettre le joueur en situation de choix problématiques qui vont être très distincts, soit plutôt on va utiliser les mécaniques de jeu pour faire comprendre un peu le message. En termes d'exemple, notamment, il y a tout ce qui va être fait, je ne sais pas si vous connaissez la Mole Industria pour les autres, qui est un studio de Paolo Pedercini qui va être très activiste dans sa façon de faire du jeu et qui va utiliser quelque chose qui est beaucoup, beaucoup apprécié en milieu étudiant qui s'appelle la rhétorique procédurale, qui consiste du coup à faire comprendre aux joueurs que la façon de gagner au jeu est cassée, que la mécanique de jeu ne fonctionne pas. Donc souvent, ça va être dans la répétition d'action qui est censée être le moyen de gagner, mais au final, ça n'a pas fonctionné, pour faire comprendre que au final, ce que la mécanique représente, donc souvent un système, ne fonctionne pas non plus. Que là-dessus, il va y avoir des jeux comme 12 septembre, je crois qu'il s'appelle, où le but, c'est de... Enfin, qu'il y ait une critique, de la politique antiterroriste qui consiste à... envoyer des frappes de missiles sur une ville, et en fait à chaque fois les frappes sont pas précises, et à chaque fois qu'on va rater notre cible, on va créer de nouveaux terroristes ou autres, et en fait le joueur va se rendre compte que le seul moyen de gagner au jeu, c'est de rien envoyer du tout, de pas envoyer de missile.
On est vraiment sur un terrain de jeu politique.
Ah, c'est très activiste, oui, Mole Industria.
C'est bon mot, quoi, effectivement. On a un message clair à faire passer, quoi. On le diffuse et on y va. Du coup, pour toi, Caroline, le jeu vidéo engagé, c'est quoi? Parce que, en fait, finalement, il y a la question effectivement de la narration, mais il y a aussi tout ce qu'on s'est dit derrière sur des démarches plus éco-responsables dans la manière de faire un jeu. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est juste une narration?
Alors, je ne pense pas à l'heure actuelle que tous les jeux soient engagés. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire, parce que je pense que le but c'est que ça soit, comme je l'ai dit, naturel en fait. Mais il y a des jeux qui sont très engagés, et dans d'autres thématiques, comme tu l'as dit, Blandine, effectivement, je pense à Xtorp en fait, qui est notamment un jeu qui a été produit en fait en parallèle et en collaboration en fait avec un laboratoire, et c'est un jeu à visée thérapeutique pour les malades d'Alzheimer notamment. Donc là, pour moi, c'est vraiment un jeu engagé parce que volonté, c'est la mécanique centrale du jeu. Pour moi, un jeu engagé, c'est vraiment un jeu, c'est ça, c'est la thématique principale. Le jeu va graviter tout autour. C'est vraiment, le jeu s'est construit autour de cette thématique. Il veut apporter quelque chose au monde autour de ça. Il y a Xtorp, il y en a d'autres. Je pense à Tsara aussi, qui est une application sur mobile qui nous met dans la peau d'une personne soignante, d'une personne accompagnatrice, de quelqu'un qui est... Je ne sais plus si c'est trisomique ou quelque chose comme ça, mais on va accompagner effectivement ces personnes qui ont besoin d'aide et qui sont souvent mal comprises finalement. Et l'application va permettre de mieux comprendre justement cette maladie finalement un peu méconnue, et de nous placer effectivement dans la peau des personnes qui les accompagnent pour mieux comprendre, qui est vraiment une portée pédagogique pour le coup.
Oui, ça me fait penser à Cancer, Dragons at Cancer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un couple donc de créateurs de jeux qui ont perdu leur enfant d'un cancer et qui ont retracé leur histoire à travers le jeu. J'avoue que c'est la seule fois où j'ai pleuré en jouant à un jeu vidéo, ce qui est quand même assez, assez fort en fait, effectivement, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça voudrait dire que c'est parce qu'on aborde une thématique sociétale en fait, qui peut être personnelle ou autre, et qui peut servir finalement d'exutoire pour les gens, qu'on ait un jeu vidéo engagé. ou non, finalement. C'est difficile, hein. Je ne veux pas mettre les choses dans les cases, en fait, j'aime pas ça, quoi. Peut-être que la conclusion, c'est de se dire que oui, enfin, tout est peut-être engagé ou pas. Mais
L'exemple que tu as utilisé me fait penser à, pour le coup, un gros jeu qui va être Hellblade: Senua's Sacrifice, va parler plutôt du. Enfin, qui est un jeu dans lequel on va incarner une Picte qui va être victime de trauma. Tout le délire du jeu, c'est d'avoir créé un personnage schizophrène sur lequel sont beaucoup renseignés ou autres. Alors, je ne sais pas si la volonté des créateurs était de représenter cette part de la population ou autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent ce genre de symptômes, qui ont y joué, qui se sont reconnus dans le jeu, qui ont trouvé qu'ils étaient bien représentés, et surtout qui ont pu mieux communiquer avec leur famille derrière, en leur faisant jouer au jeu, en disant voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je ressens ou autre. Pour autant, est-ce que le jeu en lui-même est engagé? Je ne sais pas, je pense que vraiment, c'est ma façon de le voir, c'est de se dire si c'est une démarche des auteurs, si les auteurs se sont engagés dans leurs propos, l'œuvre qui va en découler. Après, est-ce qu'il faut tout résumer à ça? Je ne sais pas. Le jeu a la particularité que les joueurs peuvent se l'approprier complètement et décider d'eux-mêmes si ça l'est ou pas, si ça leur parle sur leur thématique.
Alors pour toi, Henri, du coup, c'est un jeu devrait forcément être engagé aujourd'hui, ou comment tu vois les choses?
C'est vrai que c'est en fait une question pas simple, parce que je suis plutôt d'accord avec ce que disent Kylian et Caroline. Il y a différentes manières d'être perçu comme engagé. On peut se présenter comme jeu engagé en fonction du message qu'on veut passer, mais on peut aussi toucher à travers notre jeu engagé un public de joueurs qui ne sont pas engagés. Et comme moi, j'espère que notre jeu, par exemple, touche des joueurs qui s'en foutent de l'écologie, quoi, qui sont peut-être juste là parce qu'ils ont envie de jouer et de s'amuser. Et c'est là où c'est dur de répondre, parce que est-ce que nous, en tant que jeu engagé, si on n'est pas perçu comme engagé par notre communauté ou par des choses comme ça, c'est une question intéressante, mais en fait qui n'est pas si simple.
Oui, ni c'est important, peut-être que la question à ce moment-là, c'est de se dire est-ce qu'un jeu, un studio de jeu ou un créateur de jeu aujourd'hui face au contexte actuel, on est quand même dans un monde qui est de plus en plus victime de beaucoup, beaucoup de crises. Est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce qu'on doit être responsable quand on crée un jeu aujourd'hui ou pas du tout? Ou est-ce qu'on doit toujours offrir cette soupape finalement aux gens de divertissement? Ou est-ce que vraiment, justement, par rapport à la puissance du médium, aujourd'hui, il y a une responsabilité à avoir en tant que créateur de jeu?
Je pense que notre responsabilité, c'est de produire du plaisir, en fait, pour notre communauté, et de se dire que le plaisir qu'on offre aux joueurs a finalement de la valeur, parce qu'en fait, le joueur va passer du temps sur nos jeux, on l'espère, et c'est de se dire que ça va effectivement générer une valeur, et nous, on va essayer d'utiliser cette valeur pour avoir un impact positif, que ce soit pour se dire que pendant ce moment de plaisir, on va le sensibiliser comme on peut, ou alors du coup monétiser pour avoir un impact un impact concret, quoi, un impact positif.
Je pense que du fait de la puissance du médium et de la façon dont ça implique le joueur, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, je pense que les créateurs ont. Alors, ils n'ont pas de compte à rendre ni rien, juste. Doivent prendre conscience de la puissance de ce qu'ils font, que les choix qu'ils ont dans le jeu, les mécaniques qu'ils vont mettre en place dans le joueur, ça va influencer leur façon, ça va influencer la façon de jouer, et ça peut en découler sur d'autres choses derrière. Notamment, jusqu'à dernièrement, il y a une vraie, je trouve, fétichisation de la royauté dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, de domination aussi. C'est pas forcément un truc sur lequel les créateurs doivent tout le temps réfléchir ou autre, juste être conscient de quelle est leur cible, qui est-ce qu'ils vont viser avec leur jeu, quelle idée va être dominante dans le jeu, qu'est-ce que ça va impacter chez ces personnes-là. Notre côté, c'est vrai qu'on a un peu un point de vue qui est que on a le luxe de faire du jeu vidéo quand même. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui importe, dans le sens où on produit pas de la nourriture ou autre. On a le luxe de se concentrer dessus, ça consomme des ressources rares et tout, donc il faut qu'on en fasse plutôt une bonne utilisation. Après, je suis totalement d'accord avec Henri sur le fait que l'utilité première du jeu, c'est d'être inutile, on va dire, c'est de jouer, enfin, c'est ça. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose d'important dans la société, mais c'est pas quelque chose qui de primordial pour l'individu pour survivre. Mais ouais, je pense que c'est plutôt des problématiques sur le au moins que les créateurs doivent se poser, histoire de pas faire n'importe quoi avec la puissance qu'ils ont à disposition. Ça joue sur tellement de connecteurs humains, tellement de logique. Et on, en tant que game designer, on est conscient de ça, de ce qu'on va toucher, comment on veut que les joueurs réagissent, et il faut qu'on le fasse bien.
J'ai un avis assez nuancé, moi, sur cette question, parce que je pense sincèrement que ça dépend de qui fait le jeu et pourquoi il le fait. Entre un laboratoire, par exemple, qui va faire une demande auprès d'un studio, voilà, j'ai besoin de parler de cette thématique de façon gamifiée, ou une bande de potes qui se lance dans le jeu vidéo, je pense que ça dépend vraiment de l'intention première des créateurs, parce que effectivement, c'est important, comme dans tous les médiums, d'avoir effectivement des créateurs et des créatrices engagés, mais comme dans tous les médiums, je ne sais pas, tous les magazines ne sont pas engagés, et si un groupe de créateurs de jeux vidéo a envie de faire un party game, qu'ils fassent un party game. Je veux dire, le jeu vidéo, effectivement, peut être engagé. Je pense que sa portée divertissante est importante, mais pas nécessaire non plus. Il y a des jeux qui ne sont pas faits pour être nécessaires, qui sont, je pense, qui sont pédagogiques, enfin... Mais dans tous les cas, peu importe que le jeu soit divertissant ou non, ça reste une activité positive. Il y a une étude du CEL qui a été faite fin de l'année 2020, si je ne dis pas de bêtises, où effectivement, il montrait que de plus en plus de personnes trouvaient le jeu vidéo comme une activité positive et qui véhiculait des valeurs, des messages forts. Et déjà, c'est une grande victoire en soi. Et on est arrivé à ce résultat sans que tous les jeux du monde soient engagés ou très forts. Parce que effectivement, ça reste... un média qui peut être convivial, qui peut être très agréable, avec ou non message fort, finalement.
Super. Bah, écoutez, est-ce que vous avez encore des choses à partager ensemble avec nous, avec les auditeurs
Moi, ouais, peut-être une, ouais. C'est du coup, en pensant au podcast, où je me suis dit, mais c'est vrai qu'on considère beaucoup le jeu vidéo... dans l'idée d'une définition qu'on se fait d'un monde virtuel en fait où tout est faux, où tout est construit numériquement. Et en fait, je pense qu'il faut plus considérer ça comme un monde parallèle en fait. Il n'y a rien d'artificiel, c'est fait, c'est de la créativité. Derrière ceux qui créent le jeu, c'est des humains. On emmène le joueur dans un monde, dans une histoire, et les joueurs sont des humains, quoi. Tout le monde se retrouve là-dedans. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui attire le joueur, c'est de pouvoir aussi vivre des aventures dans d'autres mondes, en fait. Dans d'autres, quitter un peu celui qui est là où tout est impossible, là où tout est dur de notre société, et de se dire qu'on arrive dans des mondes où on sait qu'on commence en bas, tout en bas, qu'on a une quête à faire, on commence villageois, j'en sais rien, et puis on a le potentiel de vivre, de finir l'histoire en tant que roi ou empereur. Et c'est ça que je pense que c'est ça dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de vivre dans des mondes un peu différents des nôtres. Et ces mondes, je pense qu'on peut les connecter aussi à des problématiques qui sont liées à notre monde réel, quoi, et de faire avancer les choses comme ça.
Tout à fait d'accord, explorer de nouveaux mondes.
Voilà, c'est ça.
Ouais, je rebondis là-dessus, je suis assez d'accord. Je trouve aussi que les joueurs se rendent de plus en plus compte qu'il y a des personnes qui les créent derrière, qu'en plus de se rapprocher de ces différents mondes, ils se rapprochent aussi d'auteurs. Ils commencent à avoir une vraie reconnaissance des personnes et des personnalités qui travaillent derrière ces jeux. Et ça ne peut que impacter positivement l'industrie aussi, avec les différentes problématiques qu'on a de construction ou autre, où maintenant les personnes qui sont derrière leur écran, qui vont consommer le jeu, pensent aussi un peu au bien-être des personnes qui mettent à disposition ces différents mondes à eux.
Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois,
merci.
En tout cas pour ce moment.
Merci à toi
pour l'invitation.
À très bientôt.